On est toujours ensemble sur France 24. Retour à l'essentiel. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Face à vous, Bruno Daroux de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno.
Bonjour Raphaël.
Au sommaire, la Russie menace l'Occident d'une riposte après les tirs de missiles longue portée qu'elle accuse l'Ukraine d'avoir réalisé la nuit dernière contre un dépôt de munitions dans la région russe de Bryansk. Moscou qui vient de modifier sa doctrine d'engagement du feu nucléaire. Et puis Olaf Scholz, menacé au sein même de son parti, les sociodémocrates, alors qu'il a convoqué un vote de confiance du Bundestag dans un mois. Le chancelier allemand multiplie les sorties sur la scène internationale. Un coup de fil très controversé à Vladimir Poutine, suivi d'un soutien en règle au traité du Mercosur, pas encore conclu, et aux grandes dames de la France. C'est tout de suite. On va plus loin. Irresponsable à Washington, Londres ou encore Bruxelles, tous côté occidental dénoncent les derniers propos du Kremlin. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, menace en effet les Occidentaux d'une riposte à ce que Moscou décrit comme des tirs de missiles longue portée américains par l'Ukraine sur le territoire russe la nuit dernière. Écoutez.
Si des missiles de longue portée sont utilisés depuis l'Ukraine vers le territoire russe, cela signifie qu'ils sont opérés par des experts militaires américains. Nous considérerons cela comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence.
Et Sergueï Lavrov d'inviter les Occidentaux à lire en intégralité la doctrine nucléaire actualisée en septembre et approuvée pas plus tard qu'aujourd'hui même par Vladimir Poutine, Patricia Lémonière. Ces frappes marquent une nouvelle phase dans le conflit, comme l'indique Sergueï Lavrov.
En tout cas, elles marquent une montée des tensions. Je ne sais pas si elles marquent une nouvelle phase au sens purement, pour l'instant, purement militaire, si ça peut être un game changer dans la guerre en Ukraine. En tout cas, la rhétorique russe est lancée. C'est toujours la même chose lorsqu'il y a une montée en puissance de la guerre. Il passe à la menace nucléaire. Il faut bien dire, il n'y a pas de risque zéro. On ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, on peut le dire, c'est toujours la même chose. On agite la menace. Alors là, oui, il y a eu un changement de la doctrine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh bien, effectivement, quand un pays qui n'est pas doté comme l'Ukraine tape sur le territoire russe, ça peut encore se concevoir. Mais quand ce pays qui n'est pas doté est soutenu par un pays doté, là, on est dans un affrontement direct de deux puissances nucléaires. Et donc, la Russie se réserve le droit, effectivement, de rétorquer par ce qu'elle entend, l'arme nucléaire, qu'elle soit tactique, de courte portée ou autre. Bon, mais ça, c'est du classique, mais on ne peut pas éliminer le fait qu'un jour, ça ne pourrait ne pas être du classique. Et on le voit, les pays du nord de l'Europe le prennent très au sérieux. On va peut-être l'évoquer tout à l'heure. Certains ont ressorti leurs petits fascicules à l'usage de leur population.
Sur ces tirs de missiles ukrainiens qui n'ont pas été confirmés par Kiev, Bruno, que sait-on exactement, leur cible, leur objectif?
On sait essentiellement ce qu'en ont dit les Russes, donc ça aurait été la nuit dernière, je crois, 6 missiles, donc attaque Homs, auraient été tirés, 5 auraient été détruits, l'autre se serait écrasé sur un dépôt de munitions.
Alors que des bruits ont été relevés sur place, qui laisseraient penser qu'ils n'ont pas forcément tous été détruits, comme l'indiquait.
Oui, voilà, c'est pas très clair. Et puis il y a la ville qui était visée, donc c'était dans l'oblast de Bryansk. Donc c'est pas Koursk en fait. Et puis c'était quand même à 115 km de la frontière. Donc ça laisse penser que ce pourrait être quand même ces fameux attaques MS dont on parle depuis un an. Après, on a vu la réaction des Ukrainiens, c'est-à-dire que en même temps il y avait un peu de satisfaction, beaucoup de frustration sur le thème c'est bien tard et ça ne va pas être un changer game comme dit Patricia, c'est pas ça qui va radicalement changer la situation. Ça va permettre peut-être des gains tactiques, mais ça ne va pas permettre de renverser le rapport
L'objectif
de force.
L'objectif, c'est
de
faire que la région de Koursk soit une éventuelle monnaie d'échange.
Alors, ça, c'est une lecture, moi, qui me paraît assez plausible, que Joe Biden donne son feu vert à 2 mois de la fin de son investiture. C'est évidemment un mauvais coup porté à Donald Trump, mais c'est aussi peut-être, dans la prévision de futures négociations, le fait de dire, bon, vous pouvez tirer ces missiles, surtout dans la région de Koursk, pour que les Ukrainiens conservent les quelques 500 ou 600 kilomètres carrés qu'ils tiennent toujours en Russie, pour qu'au moment des négociations, eh bien, ils aient quelque chose, en quelque sorte, dans la manche, à mettre sur la table, face aux revendications de la Russie, qui, on le sait, veut garder ce qu'elle possède déjà du territoire ukrainien, et qui est bien plus important.
Le risque d'escalade inquiète, hein, en tout cas, vous venez de le dire, Patricia, les pays de l'OTAN proches de la Russie, la Suède et la Finlande préparent leur population à la possibilité d'un conflit, comme nous l'explique en image Anna Pereira.
Comment se préparer à l'éventualité d'une guerre ? Voilà à quoi répond cette brochure distribuée à plus de 5 millions de Suédois. Le livret est rédigé par l'Agence suédoise des contingents civils. Il apporte des recommandations pratiques pour faire face à des crises telles qu'une guerre, des catastrophes naturelles ou cyberattaques.
On a choisi un ton plus sévère qui indique clairement que nous devons nous préparer au pire, à un scénario de guerre. Non pas que nous pensions nécessairement qu'il y aura une guerre, mais nous devons vraiment planifier, nous organiser et inclure la population dans cette démarche.
32 pages avec des illustrations simples pour constituer des réserves alimentaires et d'eau, trouver des sources d'informations fiables ou encore localiser les abris anti-atomiques. Prendre les devants d'un point de vue logistique aussi bien que mental, avec des conseils pour pallier l'anxiété provoquée par la possibilité d'une guerre. Dans cette liste, des idées simples. En parler avec ses proches, s'engager pour se sentir utile, essayer de bien manger, dormir et faire du sport, ou encore limiter le flux de nouvelles négatives sur l'état du monde, pour ne pas se sentir dépassé par la situation. L'initiative a suscité d'intenses débats au sein d'une société peu habituée à la réalité de la guerre. Or, les Suédois ne sont pas les seuls à anticiper cette éventualité. Leurs voisins finlandais, qui partagent une frontière longue de 1340 km avec la Russie, ont aussi créé un site internet rassemblant le même genre de conseils. En 2022, dès le début de l'invasion russe, les deux pays avaient rapidement demandé à intégrer l'Alliance outre-Atlantique, abandonnant ainsi plusieurs décennies de non-alignement militaire.
On en est là, Patricia, au risque d'une guerre en Europe et non plus à ses portes. Vous avez dit, il n'y a pas de risque zéro, mais là, on le voit. Les Scandinaves, ils touchent du doigt ce que pourrait être une guerre au quotidien.
Alors, les Scandinaves étaient au premier poste, j'ai envie de dire, durant la guerre froide. Les Suédois s'entraînaient sans arrêt, parce qu'ils redoutaient qu'il y ait un affrontement, les Finlandais, évidemment. Et ils faisaient des exercices en mer, enfin, ils étaient beaucoup plus près que nous, et d'ailleurs, ils ont beaucoup moins désarmé que nous, parce que nous, franchement, je crois qu'on ne peut pas tirer pendant plus de 15 jours, je crois, nos malheureux obus et que nos possibilités de tir, c'est genre à peine 100 km, enfin, vous voyez, pour l'armée de terre. Donc, on est quand même dans un mauvais état sur le plan militaire, même si on est une armée très sophistiquée, mais et qui n'est pas... Bon. Alors là, les pays scandinaves, effectivement, se préparent, ils n'ont pas tort, hein, ma foi. J'ai envie de dire, je vais vous donner l'exemple, en Russie, ils n'ont pas besoin de se préparés, ils ont un métro qui est tout prêt pour les accueillir, enterré très profondément, avec des portes en somme blindées qui se ferment, et vous avez grosso modo 10 minutes dès que l'alerte sonne pour vous précipiter dans le métro. C'est-à-dire que la Russie a toujours vécu et continue à vivre avec cette idée de la menace. Il y a des pays comme ceux du Nord, comme ceux de l'Europe de l'Est, qui n'ont jamais éliminé de leur tête l'idée que la guerre était possible. Nous, ici, tout à l'Ouest, on a pensé qu'en faisant du commerce et qu'en nous réconciliant avec l'Allemagne, eh bien, c'en était fini de la menace de la guerre et surtout avec le grand parapluie américain. On voit que là, aujourd'hui, notre alliance avec l'Allemagne est bien mal en point sur un plan économique. Et quant au grand parapluie américain, il est aussi en train de se refermer.
Que change de ce point de vue le décret signé par Vladimir Poutine aujourd'hui, Bruno, qui élargit le recours au nucléaire?
Oui, alors, il y a la vision pessimiste en disant, voilà, on est dans l'escalade de la tension. Bon, il y a la vision un peu plus optimiste sur le thème. Les Russes étaient obligés de réagir. Donc, Vladimir Poutine dit, attention, vous avez donné le feu vert à ces missiles longue portée. Donc, nous, on dit ça, on change un peu la doctrine nucléaire. Mais en fait, on est dans la préparation de l'ère Trump, en fait, et de négociations. Et donc, ça, c'est quelque part un peu plus rassurant, sauf que évidemment il faut voir dans quelles conditions ces négociations pourraient se dérouler, quelles seraient les modalités des négociations. Et on a vu que Volodymyr Zelensky a opéré un petit virage quand même depuis quelques jours en disant 2025 doit être l'année où le conflit se règle de manière diplomatique, comme s'il acceptait un des scénarios qui est sur la table, qui serait en fait on gèle la ligne de front en fait, ce qui fait que dans l'immédiat les Russes conservent leur conquête en Ukraine. Mais ce n'est pas reconnu par la communauté internationale. Enfin, la souveraineté de la Russie sur ses oblasts en Ukraine n'est pas reconnue. Donc, il y a une forme de long cessez-le-feu, un peu comme quand on avait perdu l'Alsace-Lorraine, ou un peu comme ce qui existe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui officiellement sont toujours en état de guerre. Et puis, ça c'est Volodymyr Zelensky qui le dit, et puis on attend la suite de Vladimir Poutine. Et quand Vladimir Poutine ne sera pas là, on reprend des négociations, car l'objectif final, ultime de l'Ukraine, reste la récupération de l'intégralité, oui, de son territoire. Voilà. En tout cas, on sent que cette affaire de missiles, des Russes qui disent c'est l'escalade des Occidentaux, etc., ça peut effectivement, il ne faut pas exclure le risque zéro, mais c'est peut-être aussi ce qui va préparer la période de négociation dans les prochains mois. Bon, ça va être très compliqué, ça va prendre du temps, mais Zelensky lui-même, il sent aussi, Zelensky, que sa population est épuisée, fatiguée, il a du mal à renouveler les unités sur le terrain, donc il a lui-même pointé comme horizon, en fait, 2025, pour, d'une manière ou d'une autre, une sortie de crise. Reste à savoir ce que Vladimir Poutine a en tête.
Il y a aussi il y a la guerre hybride, hein, ces câbles sous-marins, deux câbles sous-marins de télécommunication abîmés en Baltique en l'espace de 48 heures entre la Finlande et l'Allemagne et la Suède et la Lituanie. C'est déjà la guerre, Patricia Lémonière, et même en cas de d'armistice en Ukraine, nous continuerions à avoir ces attaques russes d'un genre un peu différent.
Alors, on est rentré dans une phase de ce qu'on peut appeler une guerre hybride.
Oui.
C'est pas la guerre classique, militaire, tactique, etc. Mais c'est de la tactique hybride, en quelque sorte. Donc, ces câbles sous-marins détruits, l'un qui était vieux, et donc les Finlandais ont réussi à le détourner, l'autre qui pose un peu plus de problèmes. Bon, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Et je pense qu'on va assister et qu'on assiste tous les jours à cette guerre hybride dont on ne fait pas allusion parce qu'il y a un sous-marin qui passe par là, parce qu'il y a des tas de choses, il y a des intrusions sur le net. Enfin, on pourrait multiplier comme ça les exemples. La France, effectivement, s'est dotée d'un centre près de Rennes pour lutter contre cette menace de guerre hybride. Je pense que là, il faudrait peut-être encore essayer de reconstituer quelque chose sur le plan européen, mais nous en sommes très, très loin. Et là, il est évident que la Russie et que Poutine, lui, ne va pas abandonner. Parce que lui, qu'est-ce qu'il ne supporte pas? Alors déjà, l'Ukraine, il veut que ça soit un pays à sa botte. Alors, on veut bien geler le front. Souvenez-vous, on l'a déjà gelé déjà gelé en 2015. C'est pour ça, d'ailleurs, que Zelensky a dit pas de Minsk 3. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un point. Mais surtout, ce qu'il ne supporte pas, c'est l'OTAN. L'OTAN à sa porte. Et là, tant
qu'il mène d'ailleurs des manœuvres, encore une fois, d'une ampleur.
Les Finlandais vont mener des manœuvres. Ouais. Ça, il ne supporte pas. Et il fera donc tout ce qui est en son possible pour déstabiliser l'OTAN. Peut-être que Trump l'aidera.
Eh oui, à voir. En tout cas, bon, depuis le G20, on a entendu Volodymyr Zelensky s'émouvoir du silence des pays participants au discours nucléaire russe. Or, pourtant, Emmanuel Macron, lui, a réagi. Il a réagi, en tout cas, à la décision américaine. Il juge tout à fait bonne la décision des États-Unis d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles longue portée contre la Russie. Le signe que la France, Bruno, pourrait à son tour autoriser l'usage de ses scalps par l'Ukraine.
Oui, il y a les scalps français, les Storm Shadow britanniques, c'est à peu près les mêmes missiles. Alors, d'ailleurs, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a donné une conférence de presse à Rio. Il a rien dit.
Ils diront rien. Là-dessus. Ils les utiliseront.
Et la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a répété que l'utilisation de ces missiles français, c'était une option. Donc, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, je crois que c'est son expression. Ça veut donc dire que France et Royaume-Uni sont d'une très grande prudence. Pourquoi ? Parce que une fois Donald Trump investi, s'il revient sur la décision de Joe Biden de donner le feu vert pour l'utilisation des missiles américains, et que nous, on a autorisé les Ukrainiens à utiliser les missiles français et britanniques, on se retrouvera seul face à Vladimir Poutine. Donc, c'est sans doute pour ça qu'on reste d'une très grande prudence.
Si ce n'est qu'on n'en a pas beaucoup, alors, et que donc plus... ils seront vite tirés et que donc on n'en aura
nous,
pas.
Les Britanniques
oui,
en ont plus.
Oui, enfin, on n'en a pas beaucoup. Et je pense que de toute façon, ce n'est pas dans la tradition française de dire ce qu'on va faire oui. sur un plan militaire. Mmh. Et donc, je pense qu'on ne dira rien.
Mais vous pensez qu'on craint de s'exposer, Français et Britanniques, au non. cas où Donald Trump nous laisserait seul au milieu du guet face à la Russie?
Alors, qu'on se sente exposé si on doit envoyer oui. des troupes au sol, oui. Mais pour l'utilisation des armes, je partage moins l'avis...
Si on se retrouvait seul à le faire, quoi.
Oui, oui, mais on
les
va,
Américains
ils
arrêtaient de le faire.
Ils seront utilisés, ils seront finis en janvier.
Personne ne sait où cela va nous mener. Voilà en tout cas ce que dit, parce qu'on n'a pas eu de réaction de Donald Trump lui-même, mais dans son entourage, l'homme qui soufflera à son oreille, son prochain conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz. Nul ne sait où cela va nous mener. Bruno Daroux, vous pensez que ça va... qu'on va avoir d'abord une réaction de Donald Trump prochainement et qu'aujourd'hui, finalement, ce que pense Trump ne fait guère de doute là-dessus ou il pourrait surprendre son monde et...
Alors, Donald Trump peut toujours surprendre son monde. Là, apparemment, d'après ce qu'on reçoit comme information de l'entourage de Donald Trump, évidemment, ils ne sont pas contents du tout de ce qu'a annoncé Joe Biden. En même temps, peut-être que Donald Trump est en train d'évaluer tout ça en se disant, oui, tiens, si ça permet à l'Ukraine de pouvoir négocier un peu en meilleure position. Parce que la difficulté pour Donald Trump, s'il veut lancer ces négociations, il ne faut pas qu'il apparaisse comme étant trop du côté de Moscou. Déjà qu'il y a de forts soupçons qui pèsent sur sa personne. Donc si les Ukrainiens ont quelques billes, c'est quand même peut-être pas mal pour lui. Comme ça, il peut apparaître un peu plus neutre, entre guillemets.
C'est votre avis aussi, Patricia?
Oui, je partage totalement cet avis. Et en plus, dans leur déclaration... vis-à-vis de leur électorat, ils n'ont pas intérêt à dire « oui, c'est bien ce qu'a fait Biden ». Donc la position de Waltz est tout à fait logique, même s'ils pensent que, comme vous le dites très justement, qu'en fait, c'est pas plus mal.
Mais ils vont continuer à dire que la position de Biden expose, ouais, en tout cas, aggrave la guerre.
Ils vont continuer parce que ça, c'est dans le discours post-électoral des élections, ils ne peuvent pas dire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que même qu'ils n'en ont même pas parlé dans le bureau ovale quand ils se sont rencontrés.
Ouais. Mmh. On évoquait à l'instant la réaction d'Emmanuel Macron depuis le G20. Au G20, toujours le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'engagement de soldats nord-coréens auprès de la Russie comme une nouvelle escalade. Il l'a dit lors d'une rencontre bilatérale avec le président chinois Xi Jinping, moins d'une semaine après son entretien téléphonique très contesté avec Vladimir Poutine. Le chancelier allemand y avait soutenu l'ouverture de négociations, rompant ainsi l'unité avec ses partenaires européens et brisant en quelque sorte un tabou. Nouvelle sortie hier, cette fois sur le Mercosur, l'accord de libre-échange avec les pays latino-américains dont la France ne veut pas en soutien à ses agriculteurs, rejointe en cela par l'Italie. Et qu'Olaf Scholz s'appelle au contraire à finaliser dans les plus brefs délais. Pascal Thibault, vous êtes à Berlin pour France 24. Olaf Scholz fait désormais ouvertement cavalier seul vis-à-vis de Paris en particulier. C'en est fini du moteur franco-allemand?
On voit effectivement sur différents dossiers qu'il y a des divergences qui sont claires et qui sont affichées. En ce qui concerne le Mercosur et le libre-échange, là c'est une différence qui a toujours existé depuis la fin de la guerre, où il est dans l'ADN allemande de privilégier le libre-échange, les accords commerciaux avec d'autres pays et d'ouvrir ses frontières, ce qui est important pour un pays aussi exportateur que l'Allemagne. On sait que sur ces dossiers, la France est beaucoup plus réservée. Il y a aussi un lobby agricole qui est sensiblement plus puissant en France et on le sait, qui peut plus rapidement monter sur les barricades que ce qui est le cas en Allemagne.
Oui, il reste tout de même cette question de ce coup de fil à Vladimir Poutine. Depuis, il a tenté quand même de rétro-pédaler Olaf Scholz en appelant tout de même, dans l'immédiat en tout cas, à continuer à aider l'Ukraine.
Oui, effectivement, il a été contraint encore une fois, de souligner que l'Allemagne restera aux côtés de l'Ukraine jusqu'au bout, qu'il faut trouver une solution équitable qui ne se fasse pas sur le dos de l'Ukraine, après les nombreuses critiques que vous évoquez à l'international, mais aussi en Allemagne, dans l'opposition chrétienne-démocrate. On a intensément critiqué cette conversation entre Vladimir Poutine et Olaf Scholz, un entretien qui pourrait avoir des relents électoralistes, alors que les forces en Allemagne, parmi les partis populistes notamment, mais aussi au sein du SPD d'Olaf Scholz, les forces qui sont plus réticentes, qui souhaitent une négociation à tout prix, une fin de la guerre et puis la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine, alors que ces forces sont importantes, eh bien ça pourrait être une carte électorale que le chancelier pourrait jouer alors qu'on s'approche d'élections anticipées ici.
Oui, et alors que son avenir politique est hypothéqué à très court terme, hein.
Effectivement, à l'heure où nous nous parlons, il y a une réunion de crise qui réunit actuellement la direction du Parti social-démocrate, alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus de voix, et non plus seulement au niveau local, régional, mais aussi parmi des députés du Bundestag qui craignent les sociaux-démocrates, j'entends, pour leur avenir politique, avec un parti qui est crédité de 16% dans les sondages. Eh bien, on se demande s'il ne faudrait pas, au milieu du guet électoral, changer de cheval et laisser tomber le cavalier Scholz, très impopulaire. Ce matin, dans la liste des 20 hommes politiques, hommes et femmes politiques allemandes les plus populaires, eh bien, le ministre de la Défense que certains désormais privilégient, Boris Pistorius, arrive en tête à nouveau, et le bon dernier, le 20e, c'est Olaf Scholz. Certains se demandent eh bien, s'il ne faudrait pas plutôt privilégier cet homme politique, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, pour augmenter les chances, à défaut de conserver la chancellerie, pour augmenter les chances du SPD et sauver un peu les meubles, alors que le groupe parlementaire risque d'être décimé, surtout si, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout hypothétique aujourd'hui, surtout s'il devait y avoir à nouveau une grande coalition dirigée à nouveau par un chrétien-démocrate, avoir des forces un peu plus fortes, eh bien ça serait évidemment une meilleure position de départ pour le SPD lors de négociations.
Merci Pascal Thibault en direct de Berlin pour France 24. Patricia Lemonia, il y a un problème Scholz, aujourd'hui, à l'image de son appel, jugé intempestif par beaucoup à Vladimir Poutine.
Il y a un problème Scholz en Allemagne, définitivement, on le voit même au sein de son parti, mais ce problème Scholz, les Chinois le trouvent formidable, ce Scholz-là, puisque Xi a dit aujourd'hui, je crois, dans une déclaration à la télévision, qu'il comptait bien sur le chancelier allemand pour régler les différends avec l'Europe. Donc c'est en fait c'est le cheval de Troie, en quelque sorte, chinois en Europe, Scholz. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde en Allemagne quand même si l'Allemagne compte beaucoup sur son industrie automobile. Et effectivement, mais Pistorius, le ministre de la Défense, il a dit la même chose, il a dit non aux Taurus. En revanche, le patron de la CDU, le chrétien-démocrate Merz, qui risque de l'emporter, lui a dit pas de problème, on donnera des Taurus, c'est-à-dire
des missiles
à longue portée de 500 km.
Bruno Daroux, sa volonté peut-être de survivre politiquement, Olaf Scholz met en danger l'Union européenne, il expose la France en particulier.
Il a fait sa déclaration, oui, comme l'a très bien expliqué Pascal Thibault, pour des raisons évidemment électorales, puisque de plus en plus d'Allemands, notamment à la gauche de l'échiquier, mais aussi à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche, trouve que le coût du soutien à l'Ukraine est quand même très élevé. Donc ça, c'est un peu de l'électoralisme. Vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il y a notamment le désaccord sur le Mercosur. Après, toute la
question... Il y a un défaut de concertation manifeste, quand même, entre le coup de fil à Poutine et la déclaration sur Mercosur.
Ah oui, alors le coup de fil à Poutine. Les Français ont dit qu'ils étaient au courant.
Après.
Il y aurait un coup de fil. Non, ils ont dit après, certes. Ils ont dit on était au courant depuis des semaines qu'il y aurait un coup de fil, mais on ne savait pas quand il aurait lieu. Donc, interpréter
depuis
ça...
Depuis G20, aujourd'hui, Emmanuel Macron dit toute initiative est bonne. Enfin, c'est vrai que...
Oui, voilà, de toute façon...
Le mal est fait.
Voilà, le mal est fait. Et puis, Emmanuel Macron lui-même, au début de la guerre en Ukraine, téléphonait souvent à Vladimir Poutine. Je ne sais pas s'il prévenait Olaf Scholz.
Il a peut-être envie maintenant.
À chaque fois. Ouais. Et d'ailleurs, du côté de Vladimir Poutine, il va y avoir une petite réjouissance à préférer parler désormais avec Olaf Scholz qu'à Emmanuel Macron, qui est devenu un peu l'enfant terrible de l'Union européenne aux yeux de Vladimir Poutine. Après, en fait, l'Allemagne, comme disait le grand Charles de Gaulle, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. L'Allemagne pousse ses intérêts. Et avec le Chinois, ils se sont effectivement, les deux chefs d'État et de gouvernement se sont vus à Rio. Et le Chinois a dit quand même, c'est le pays majeur en Europe. C'est avec lui. Alors on voit,
le
président chinois, il est un peu trumpiste là-dessus. Ah oui. On fait des deals en bilatéral pour mieux diviser les Européens. Donc c'est vrai que face à tout ça, il y a un moteur franco-allemand qui... Ouais. Quasiment inexistant, plus Emmanuel Macron est lui-même très affaibli politiquement et économiquement, et il y a ce désaccord sur le Mercosur. Alors sur le Mercosur, ça dépend aussi comment on regarde la chose, parce que si on regarde globalement, quand même, c'est plutôt la France qui fait blocage, notamment sur la question des viandes
bovines, même,
qui viendront en Europe. si on comprend bien, la majorité des États européens sont quand même pour cet accord de libre-échange, notamment l'Allemagne, évidemment, à cause de ses voitures et de ses machines-outils. Et les Français, là, rament, si vous me passez l'expression, pour essayer de rameuter à eux les Italiens, les Autrichiens, les Irlandais.
Un peu tard.
Parce que finalement, ça, le Mercosur, au-delà de la tension franco-allemande, si vous voulez, à un moment, parce que Ursula von der Leyen veut cet accord, donc à un moment, il va y avoir l'heure de vérité.
Oui.
Et pour qu'un traité soit refusé au niveau de l'Union européenne, il faut qu'il y ait quatre États membres qui représentent 35% de la population.
S'il est divisé en deux textes. Si on garde un seul aussi. Texte, c'est l'unanimité des parlements.
Mais voilà, ça, définitivement, c'est en deux textes.
Ce sera deux textes.
Si ce sera deux textes, sur le volet commercial, ce sera la majorité qualifiée. Et c'est, oui, vous avez raison. Et c'est là que Emmanuel Macron cherche ces fameux 35% de la population et trois autres États membres, mais peut-être va-t-il y arriver.
Moi, j'ajouterais juste un truc. Souvenez-vous de l'accord commercial avec le Canada. Tout le monde criait, tout le monde disait ça va être la catastrophe, on va être envahi, et en fait, on y gagne massivement. Oui. Donc, voilà.
Oui, et puis sur la France, il faut dire que c'est le secteur agricole qui craint cet accord, même si la viande, ça représente, je crois, 1,6% de la production. Volume, ouais. C'est vraiment pas grand-chose. Mais il y a d'autres secteurs, y compris de l'économie française.
Et agricole, le lait, tout ça.
Qui pourrait profiter de cet accord de libre-échange. Donc, la messe n'est pas dite, on va dire.
Ça va être signé, et puis le Parlement ne signera pas français, mais ça ne changera rien.
En tout cas, voilà, ce sera peut-être un cadeau d'adieu pour Olaf Scholz, qui semble en très mauvaise posture. Ouais. On n'est même pas sûr qu'il tiendra jusqu'au vote de confiance.
Il est comme Michel Barnier, vous voyez. On ne sait pas combien de temps il va tenir.
Donc, il tiendra peut-être un peu plus longtemps, non le temps que le budget revienne de toute manière.
Après on ne sait pas, vous savez, certains disent que Michel Barnier ne va peut-être pas passer Noël, mais bon, on verra bien.
Merci en tout cas à vous.
Et là, on s'égare.
On sort de l'international.
On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour l'essentiel.